VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous. 11h en temps universel, le gouvernement congolais a suspendu le championnat de football de première division, la LINAFOOT, en République démocratique du Congo, craignant des violences autour de la fin du mandat du président Joseph Kabila. Depuis plusieurs mois, le public de Kinshasa profite des matchs disputés par les équipes de la LINAFOOT ou par l'équipe nationale pour lancer des slogans hostiles à M. Kabila. Et poursuit donc des négociations pour sortir la RDC de l'impasse politique à 7 jours de la fin du mandat du président Kabila, mais sans la coalition autour du parti de Jean-Pierre Bemba, le LMC, le MLC, le Front pour le respect de la Constitution, qui a quitté ses assises, reste sur sa stratégie qui consiste à mettre en garde contre la violation de la Constitution. Écoutez le sénateur Raymond Ramazani Baya.
Pour le moment, la décision a été prise de confirmer notre retrait. Mais tous les amis qui nous appellent, tous les partenaires qui veulent que nous continuions à examiner la possibilité et les nouvelles conditions de notre parti, participation, on va les examiner. Nous ne voulons pas fermer la porte. Le dialogue technique veut dire que nous voulons absolument arriver à fixer les échéances du calendrier électoral. Deux, que nous fixions des garanties pour qu'on ne vienne pas dans 4 mois, dans 6 mois, nous dire encore, on n'a pas eu les moyens, on n'est pas prêt, parce que nous puissions cette fois-ci nous mettre d'accord que le changement, l'alternance va se faire par les élections. Et pas toujours à travers des conciliabules, pas toujours à travers des dialogues. Il faut que le cycle électoral puisse être respecté.
Raymond Ramazani Baya du MLC. À Brazzaville, convention de l'opposition sur fond de division. Plusieurs dinosaures de l'opposition ont fait faux bond à ces assises organisées par Claudine Mounari et Charles Zachary Bouao. Ce conclave des opposants, le deuxième du genre, se voulait une plateforme pour continuer d'appeler le pouvoir à dialoguer et à mettre fin au harcèlement judiciaire. Ngoula Ngoussou nous en dit plus.
Le dialogue avec la majorité au pouvoir reste un enjeu essentiel de ces assises, tel que le souligne ici Charles Zachary Bouao, le coordonnateur de l'IDC Fourcade.
Puisque les gens ne veulent pas aller au dialogue, bon, l'avenir de ceux qui n'aiment pas le dialogue, c'est de chuter. Et le pouvoir de Brazzaville se comporte exactement comme les systèmes autocratiques en fin de potentiel historique. Et le peuple ne saura accepter cela plus longtemps.
René-Serge Blanchard-Roba, qui accueille cette rencontre chez lui, faute de salle dans la ville, déplore l'existence des positions tranchées entre pouvoir et opposition à Brazzaville.
S'il n'y a pas de combat d'idées, il n'y a pas de politique. Il y a eu une vie politique prise en otage. Il y a eu un hold-up électoral. Tournons la tête et regardons-nous. Que nous a opposé la majorité depuis le début de la crise sur le changement de la Constitution et les effets relatifs? Sans être d'accord toujours, c'est bien le moins entre l'opposition et la majorité. Nous aurions pu ouvrir un débat juridique et politique qui aurait pu forcer le respect des observateurs. Malheureusement, en face, rien et rien du tout.
La convention de l'opposition qui s'est ouverte hier à Brazzaville contribue davantage à diviser cette plateforme politique. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'ancien ministre guinéen des mines, Mahmoud Thiam, a été arrêté aux États-Unis pour corruption. Mahmoud Thiam, âgé de 50 ans, qui a également la nationalité américaine, a été arrêté mardi matin à New York, où il vit. Il lui est reproché d'avoir reçu environ 8,5 millions de dollars de 2 entreprises chinoises, filiales d'un conglomérat non identifié, quand il était ministre des Mines et de la Géologie de la République de Guinée en 2009 et 2010 sous la transition militaire. Le Soudan du Sud a décidé en moins d'une semaine d'expulser 2 humanitaires employés par le Norwegian Refugee Council, sans en donner la raison, a annoncé mercredi l'ONG NRC. Le directeur du NRC pour le pays avait, lui, été expulsé vendredi après avoir été détenu pendant une journée par les services de sécurité sud-soudanais et l'un de ses collègues en charge de l'état de Warab dans le nord du pays l'a été à son tour mardi, a indiqué l'ONG dans un communiqué. Le NRC n'a reçu aucune explication officielle sur les accusations portées à l'encontre de ces 2 individus, a déploré l'organisation humanitaire. Au Nigeria, Médecins sans frontières tire la sonnette d'alarme sur l'urgence humanitaire dans le nord-est du pays où la situation aurait atteint des niveaux catastrophiques, débordés par les 1,6 million de déplacés dans le seul état du Borno. Les autorités nigérianes tentent aujourd'hui de les convaincre de retourner chez eux, assurant que la sécurité est revenue. Cependant, dans le nord, même si l'insurrection est largement affaiblie, l'instabilité et les combats sporadiques isolent toujours une grande partie de la région placée sous embargo militaire. 55 000 déplacés qui ont fui le groupe islamiste nigérien Boko Haram sont regroupés dans le camp de Ngala, à l'exception de Maïdougouri. Ngala est pour l'instant une des rares localités où peuvent se rendre sporadiquement les ONG avec Bama, Dikwa ou Monguno.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le régime syrien a repris aujourd'hui ses bombardements sur la dernière poche rebelle d'Alep après une pause de plusieurs heures qui devait permettre l'évacuation de civils et de rebelles de la deuxième ville du pays, rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. Il y a eu ce matin au moins 14 obus tirés par les troupes du régime sur le carré tenu par les rebelles, et ce, pour la première fois depuis mardi soir, indiqué à l'AFP Rami Abdel Rahman, le directeur de l'OSDH. Un tour maintenant à Flint, cette ville du Michigan aux États-Unis. Pour le dossier de ce journal, Flint, dont les habitants ont bu de l'eau contenant du plomb pendant 18 mois. Aujourd'hui, les conséquences sur la santé des habitants. Reportage signé Nastasia Peteuil.
Il y a deux ans, en avril 2014, la ville de Flint décide de se fournir en eau potable depuis sa propre rivière au lieu de l'acheter à Détroit. Elle pense alors faire des millions de dollars d'économies. Mais 18 mois plus tard, en octobre 2015, plusieurs lanceurs d'alerte dévoilent que l'eau est contaminée au plomb. Parmi eux, Dr Mona, pédiatre à l'hôpital de Flint. Depuis un an, elle se bat pour trouver des solutions face à cette crise sanitaire.
Nous avons les ressources en place, des bouteilles d'eau et des filtres sont disponibles dans les centres de distribution. Nous avons débuté nos efforts de reconstruction pour être sûrs que nos enfants aient toujours un avenir radieux devant eux.
L'eau a contaminé des femmes enceintes et des enfants, les plus sensibles face au plomb. Au jour le jour, la pédiatre essaie d'aiguiller les familles dans ce traumatisme.
Quand les parents viennent me voir, la première question qu'ils me posent est « Est-ce que ça va aller pour mon enfant ?» Et qu'est-ce que je peux répondre à ces mamans ? Pendant plus de deux ans, leur enfant a été contaminé par de l'eau composée de plomb. J'essaie de leur expliquer ce qu'elles devraient faire et peuvent faire.
Du côté des adultes, c'est l'équilibre mental qui a été touché. La confiance a disparu et les résidents commencent à être fatigués de voir la situation figée. Le révérend Dawson encourage ses paroissiens à parler à des spécialistes. Il a vu une montée de l'anxiété dans sa communauté.
Quelques personnes sont venues me voir avec des tendances paranoïaques. La méfiance s'est répandue à cause de l'eau contaminée. Ils ont entendu une chose, mais la réalité était très différente.
Et parfois, les habitants sont anxieux, voire en colère. Le révérend essaie de calmer les esprits comme il le peut.
Il y a de la frustration, mais aussi de la colère, jusqu'au point où certaines personnes sont au bord de la crise de nerfs à cause de la lassitude, de la rage, et j'essaie de les calmer.
Les maladies mentales se sont développées à grande vitesse à Flint. Le plomb et la défiance ont accéléré de nombreuses pathologies. La ville a mis en place des cellules psychologiques pour aider la population. Mais est-ce que cela guérira la méfiance envers le système politique?
Merci Anastasia Puteuil. Les États-Unis continueront de s'opposer au comportement agressif de Pékin en mer de Chine méridionale, a déclaré aujourd'hui le commandant des forces américaines dans le Pacifique, l'amiral Harry Harris, commandant en chef des forces américaines dans le Pacifique, s'exprimait devant l'Institut Lowy de Sydney au moment où Pékin réagit avec colère aux propos du président américain élu Donald Trump, qui a menacé de ne plus reconnaître le principe de la Chine unique qui empêche toute indépendance formelle de Taïwan. Et puis, les corps de 11 personnes en décomposition et la gorge tranchée ont été découverts dans la banlieue d'Aden, grande ville du sud du Yémen, où des groupes djihadistes restent actifs, a indiqué aujourd'hui une source de sécurité. La cité portuaire d'Aden sert de base temporaire au gouvernement yéménite depuis qu'elle a été reprise à l'été 2015 aux rebelles houthis qui, eux, contrôlent la capitale Sanaa. Les autorités peine à rétablir la sécurité à Aden et dans le sud où des organisations djihadistes comme Al-Qaïda et le groupe État islamique mènent des opérations et des attentats. Point final à ce journal. Bon après-midi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.